Voilà, bonsoir à tous. Ce soir, nous changeons de siècle et de pays, puisque John Henry Newman est né à Londres en 1801, dans une famille anglicane, donc il est baptisé dans l'église anglicane. Je vous donne d'abord, comme à chaque fois, quelques éléments pour le situer dans son contexte, dans son époque. Et donc en 1816, il a 15 ans, il va vivre une première expérience spirituelle très forte, dont il va parler plusieurs fois par la suite dans sa vie. Il va appeler ça sa première conversion. Je vous en lis un petit extrait. Donc c'est une expérience spirituelle dans laquelle il a la certitude, la conviction intime, inébranlable, d'être prédestiné au salut. Vous vous souvenez de l'épreuve spirituelle de François de Sales qui doutait au contraire de son salut. Et bien Newman a cette grâce d'avoir cette certitude d'être prédestiné par Dieu à la gloire. Alors il écrit ceci dans un livre qui s'appelle Apologia pro sua vita, une sorte d'autobiographie qu'il va écrire après son entrée dans l'Église catholique pour expliquer le cheminement qui l'a conduit jusqu'à l'église de Rome. Je crus que la conversion intérieure dont j'étais conscient, et à présent encore j'en suis plus certain que d'avoir des pieds et des mains, je crus donc que cette conversion intérieure continuerait dans la vie future et que j'étais prédestiné à la gloire éternelle. Je n'ai pas conscience que cette croyance m'ait porté le moins du monde à négliger de plaire à Dieu. Vous voyez, c'est pas « je sais que je suis prédestiné à la gloire quoi que je fasse, donc j'en profite pour vivre n'importe comment. Je suis prédestiné. » Pas du tout. C'est une conviction de cette prédestination, mais qui le conduit au contraire à chercher encore plus à répondre à la grâce et à plaire à Dieu. Donc cette conversion concentra toutes mes pensées sur les deux êtres, et les deux êtres seulement, dont l'évidence était absolue et lumineuse, moi-même et mon Créateur, et ce face-à-face avec Dieu. Alors que je me considérais comme prédestiné au salut, je ne m'occupais pas des autres. Ils me semblaient simplement oubliés, passés sous silence, mais non pas voués à la mort éternelle. Je ne pensais qu'à la grâce qui m'était accordée à moi. Oui, donc c'est pas de l'égoïsme ou de l'indifférence ou de la condamnation d'autrui, mais c'est vraiment un face-à-face, une certitude, une expérience, on pourrait même dire une expérience, dont il est plus certain que d'avoir des mains et des pieds, de la présence de Dieu dans sa vie, de la vérité de Dieu, et puis de cette grâce du salut qui lui est faite. Il est face-à-face avec son Créateur. Et donc Newman, donc il n'a que 15 ans, et il va garder de cette expérience un sens aigu de la gravité de l'existence humaine et une conviction profonde par rapport à cette question de la prédestination et du jugement. Il y a un conflit, il y a une séparation nécessaire entre le monde et les chrétiens, le monde au sens le monde qui gît au pouvoir du mauvais, le monde pris dans cette tendance de l'homme à se séparer de Dieu, à vivre sans Dieu. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose de grave dans l'existence humaine. Grave au sens de quelque chose qui a du poids. Les choix que je pose, même les choix les plus quotidiens, les plus ordinaires, eh bien, rien n'est anodin. Parce que le chrétien, l'homme, est face à cette alternative finale, c'est le ciel ou l'enfer. On retrouvera ça beaucoup dans la prédication de Newman, une conscience très vive de la liberté humaine, et puis de la vigilance face à la perspective eschatologique, donc de la perspective du jugement dernier, que tout ce que l'homme vit ici-bas, tous les choix qu'il pose, engagent son éternité. Et donc, on est pour ou contre le Christ. Vous voyez, il n'y a pas de juste milieu, il n'y a pas de compromis. Les choix que je pose quotidiennement sont une réponse pour ou contre. Et donc dans sa prédication, Newman rappellera fréquemment cette perspective du jugement dernier, cette, cette fugacité de l'existence terrestre, hein, qui ne doit être vécue que dans la perspective du retour du Christ. Et puis aussi cette importance, vous voyez, de la conscience, hein, ce sanctuaire intérieur de l'âme, qui est le lieu le plus intime de la présence de Dieu, mais aussi des choix que je pose, hein, pour répondre à cette grâce, à cet appel, à cette présence de Dieu. Donc, vous voyez, pour Newman, croire, c'est veiller, c'est attendre. Attendre la venue du Christ. Mais pas attendre passivement, hein, attendre vraiment avec une vigilance active. Hein. Veiller, c'est attendre en se gardant pur, en examinant sa conscience, en faisant des choix qui me mettent du côté du Christ et pas du côté du monde. Et donc en étant aussi lucide, hein, c'est un des thèmes qu'on va regarder ce soir, en étant aussi lucide sur toutes les embûches que le démon va essayer de nous tendre, hein, pour nous faire tomber, pour nous faire passer de son côté à lui. Voilà, donc ça c'est cette première expérience de Newman quand il est adolescent, hein, et qui va marquer vraiment son cœur de cette empreinte. Hein, l'année même qui suit cette première conversion, eh bien, le jeune John Henry rentre au prestigieux Trinity College à Oxford. Hein, hein, et là, il va y recevoir la meilleure éducation possible. Et ça aussi, hein, ce sont des années qui le marquent, puisqu'il va en garder un sens éminent de la noblesse, de l'intelligence humaine, de l'importance de la culture, et puis un sens de l'éducation, dont on va aussi reparler ce soir. Il décide de devenir prêtre, donc dans l'église anglicane. Il est ordonné en 1825, et il va se révéler très rapidement un prédicateur de talent. Nous possédons 8 volumes des sermons paroissiaux, hein, qu'il a prononcés pendant les 15 années où il était encore donc curé d'une petite paroisse anglicane. Et alors il écrivait tout mot à mot. Vous savez, c'est un commentateur de l'écriture extraordinaire. Donc chaque sermon, vous avez la date, le lieu où il a prêché, le verset de l'écriture qu'il commente, et puis le texte de son sermon. Donc on en a 8 volumes. C'est très beau. Enfin, vraiment, je ne parlerai pas de ça ce soir, mais je vous le signale parce que Newman est un admirable commentateur de l'Évangile et de l'Écriture. Alors il va rapidement se plonger aussi dans l'étude des pères de l'Église. Et je le signale parce que vous voyez, c'est pas seulement une question d'érudition, de culture. Mais c'est vraiment, il va parler plus tard des pères de l'Église comme de l'échelle qui l'a rapproché de l'Église de Rome. Vous voyez, c'est par l'étude des pères de l'Église qu'il va être peu à peu conduit, hein, par un long cheminement, mais une vraie recherche de vérité, à reconnaître dans l'Église de Rome, hein, qu'il avait en abomination, c'était vraiment la véritable Église du Christ. Et donc c'est les pères de l'Église qui l'ont pris par la main, hein, pour reconnaître la vérité de l'Église de Rome, et donc, plus tard, en 1845, hein, il va demander son entrée dans l'Église catholique. Avant cela, je vous signale une autre expérience spirituelle très forte, qui n'aurait pu être qu'un petit événement anodin, mais que Newman considère lui-même comme vraiment un lieu fondateur qu'il va ressasser dans sa mémoire, dans son cœur, tout au long de sa vie, le raconter plusieurs fois. Eh bien, c'est fin 1832, là, puis la première moitié de 1833, il est invité par un ami et son père à l'accompagner pour un long voyage en Méditerranée, un voyage de santé. Donc il accompagne ses deux amis, et donc ils font des escales extrêmement agréables, merveilleuses. Ils visitent, hein, donc Gibraltar, Cadix, Alger, Corfou, Malte. Puis il visite ensuite la Sicile, mais très rapidement, trop rapidement, au gré de Newman. Et puis ensuite, ils arrivent à Rome, un séjour qui les enchante. Première découverte de Rome, hein, pour Newman, donc 1833. Et puis voilà que le jour du retour arrive. Et donc son ami et son père veulent prendre le chemin du retour. Et Newman dit, ah, non, 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 moi je veux absolument revoir la Sicile. On y est passé trop vite, je veux aller revisiter, revoir ces paysages merveilleux, visiter toutes les antiquités, etc. Et donc, Ses compagnons décident quand même de maintenir leur retour en Angleterre, et lui, malgré les conseils de son ami, il continue son expédition tout seul. Vous allez me dire, bon, c'est très anecdotique. Et voilà que pendant ce deuxième voyage, la poursuite de ce voyage, où il retourne en Sicile, voilà qu'il va tomber très grièvement malade. Il est entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et cette épreuve, vous voyez, qui est en premier lieu physique, c'est une maladie, Newman va y lire vraiment un événement spirituel. Il comprend peu à peu, il comprend que cette maladie physique qui le met aux portes de la mort est en fait une sorte d'avertissement divin, ou en tout cas de réponse de Dieu, qui le fait prendre conscience qu'il a agi selon sa volonté propre. Il n'a pas cherché à plaire à Dieu, il n'a pas écouté les conseils de ses amis, il a, d'une manière obstinée, tenu à faire ce qui lui plaisait, qui n'était pas un mal en soi. Vous voyez, aller revoir les merveilleux paysages et monuments de Sicile, c'est un bien, la création est un don de Dieu. Donc il n'a pas choisi un mal en soi, mais il a péché en choisissant sa volonté propre, par présomption, plutôt que la volonté de Dieu. C'est la lecture qu'il en fait à travers cette maladie physique. Et bien voilà quelle lumière spirituelle il reçoit. Et donc plus il réfléchit sur le sens de cette maladie, plus il réalise que jusqu'alors, donc il a déjà 32 ans à l'époque, finalement il a souvent dans sa vie agi par présomption, sans chercher la volonté de Dieu, en préférant ce qui lui plaisait, etc. Et il réalise qu'en agissant de la sorte, non seulement il s'est, c'est là où on retrouve l'aspect assez tranché dans la pensée de Newman, non seulement il s'est détourné de Dieu, mais en se détournant de Dieu, il s'est livré au démon. C'est fort, mais c'est le langage de Newman, c'est pas mon interprétation. C'est lui qui relie comme ça ce qu'il a vécu. Et donc Newman comprend que le combat que le chrétien a à mener, vous voyez, c'est pas d'abord le combat fondamental entre le bien et le mal, entre les ténèbres et la lumière, parce que par son baptême, le chrétien a déjà opté pour le Christ, pour le bien, pour la lumière. Donc le combat spirituel que le chrétien a à mener, c'est un combat plus subtil, qui n'est pas seulement entre le bien et le mal, mais qui est entre sa volonté propre, qui peut aussi porter sur un certain bien, et la volonté de Dieu, qui doit vraiment avoir la primauté à chaque instant. Et donc Newman va ressortir de cette épreuve, de cette maladie, il va guérir, et il va ressortir plus abandonné, plus déterminé que jamais, évidemment, à chercher la volonté de Dieu, mais aussi plus averti, vous voyez, contre les pièges, les ruses que peut utiliser le démon si nous ne sommes pas vigilants. Il peut nous faire désirer des choses qui sont apparemment bonnes. On l'avait déjà vu avec Jean Cassien, pour ceux qui étaient là, si vous vous souvenez, par rapport à cette question du discernement des esprits. Ce serait facile, vous voyez, de rejeter la tentation si le démon nous présentait un mal. Évidemment, personne ne désire un mal comme mal. Mais c'est beaucoup plus subtil, c'est que le démon peut chercher à nous faire perdre du temps, nous ralentir, nous faire dévier, en nous présentant un bien, qui est objectivement un bien, mais qui peut ne pas être opportun, ou qui peut nous faire finalement préférer notre désir du moment à la volonté de Dieu, etc. Donc c'est vraiment cette maladie est le lieu pour Newman d'une maturation spirituelle profonde. Et il en ressort averti, vigilant, averti. Voilà que quelques jours à peine après son retour en Angleterre, son ami, John Keble, qui était un de ses maîtres à Oxford, donc un anglican d'une très grande stature spirituelle, vraiment un chrétien d'une grande sainteté, grande ferveur, va prononcer un sermon retentissant qui va être ensuite publié, diffusé par écrit, sous un titre révélateur, « L'apostasie nationale ». Et ça, vous voyez, ce premier sermon va être comme le déclencheur d'un fort mouvement de réveil spirituel qu'on va appeler le mouvement d'Oxford, hein, ou le mouvement des tractariens, parce qu'ils vont publier des tracts, alors on les appelle les tractariens. Et Newman va être pendant 8 ans, enfin de, un des principaux leaders de ce mouvement d'Oxford. Donc ça, on va y revenir par la suite. Hein. Pour l'instant, je finis rapidement le parcours de la vie de Newman. Donc je vous le disais, hein, au fur et à mesure de ses études patristiques, il se rapproche de l'Église catholique. Il demande en 1845 à y être reçu. Et donc ensuite, en 1846, il part à Rome pour se préparer au sacerdoce dans l'Église catholique, hein, après un complément d'études, etc. Et il va donc aussi décider d'entrer dans la congrégation de l'oratoire, hein, congrégation fondée par Philippe Néri, avec une mission très particulière au niveau de l'éducation. Hein. Donc ça aussi, vous allez voir que dans la vie de Newman, ça a son sens. Donc il entre dans la congrégation de l'oratoire, il est ordonné prêtre en 1847, et en 1848, il est donc envoyé en Angleterre pour fonder le premier oratoire, hein, premier petit prieuré, petit oratoire. Plusieurs autres fondations suivront, mais aussi beaucoup d'épreuves et beaucoup d'échecs. Hein, je ne m'arrêterai pas là-dessus, mais c'est un trait assez marquant dans la vie de Newman. Beaucoup d'incompréhensions, de calomnies, d'épreuves. Bon, il était anglican, il rentre dans l'Église catholique et il va être incompris d'un côté comme de l'autre. Vous voyez, il va être décrié par les anglicans, mais objet de beaucoup de méfiance de la part des catholiques. Beaucoup d'événements aussi vont faire que certaines lettres ne sont pas transmises, donc il y a des quiproquos même avec le pape, etc. Donc beaucoup d'épreuves, mais finalement une sorte de réhabilitation, on pourrait dire, hein, ou de consolation à la fin de sa vie, puisqu'en 1879, il va être donc élevé au cardinalat par le pape Léon XIII. Il va mourir 10 ans plus tard, hein, en 1890. Et il a été béatifié récemment, hein, c'est un jeune bienheureux, hein, puisque c'est 2010, par le pape Benoît XVI, donc le bienheureux Newman. Donc c'est une personnalité d'une très grande richesse, voyez, quelqu'un de très sensible, hein, un prédicateur passionnant, aussi bien dans sa connaissance très fine de l'écriture que dans sa connaissance tout aussi fine du cœur humain. Et c'est un fin psychologue, vraiment au plus grand sens du terme, Newman, hein, un fin connaisseur du cœur de l'homme. Alors ce soir, hein, puisque je ne peux pas évidemment regarder tout, mais je voudrais retenir deux thèmes qui sont d'une actualité très particulière, hein, dans la figure de Newman. Eh bien, c'est justement cette lutte contre l'apostasie du monde moderne, hein, mu par l'esprit de l'Antichrist, des termes assez forts, mais que je vais vous expliquer. Et puis, la réflexion de Newman sur tout ce qui concerne l'éducation, hein, en particulier le rôle que l'Église peut et doit jouer dans l'université et dans le monde de la culture. Et donc, des thèmes très actuels. Hein. Voilà, donc, premier thème, hein, cette apostasie du monde moderne, qui prend pour Newman le visage du libéralisme. Donc, comme je l'ai mentionné à l'instant, il y a quelques minutes, hein, donc, 14 juillet 1833, John Keble prononce un sermon retentissant, hein, qu'on va publier sous le nom « L'apostasie nationale ». Donc, d'abord, resituons les choses dans leur contexte. Hein. Pourquoi ce sermon? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, le gouvernement britannique vient de décider la suppression de 10 des 22 sièges épiscopaux de l'Église anglicane en Irlande. Et donc une décision d'État concernant l'Église. Alors, le fait concret en lui-même est en fait de peu d'importance, parce que les diocèses que l'État envisage de supprimer sont des diocèses qui comptent en fait un très très petit nombre de fidèles. Donc ce n'est pas d'abord là-dessus que porte la réaction de Newman et de ses amis, mais c'est parce que l'enjeu de fond est bien plus grave. Et la question c'est, peut-on laisser l'État, le gouvernement civil, hein, prendre des décisions touchant la vie interne de l'Église? Et de fait, c'était la grande question de l'Église anglicane. Une Église qui, jusque-là, avait toujours prêté à l'État le soutien de sa structure traditionnelle, qui était presque asservie à l'État, mais jusqu'où, hein, jusqu'où l'Église pouvait-elle accepter cette sorte d'assujettissement, ou en tout cas de dépendance à l'égard de l'État? Est-ce qu'elle devait continuer à accepter sans rien dire des décisions qui allaient jusqu'à supprimer des diocèses? Donc vous voyez, la situation de l'Église anglicane dans ce premier quart du XIXe siècle était assez dramatique, pas d'abord à cause de cet assujettissement à l'État, mais d'abord parce que c'était une Église qui sombrait dans une sorte de torpeur spirituelle. C'était vraiment une Église, j'emploie des termes forts là aussi, mais ce sont les termes de ceux qui... De Newman lui-même ou de ceux qui ont écrit la vie de Newman, une sorte de léthargie. Vous voyez, une Église qui manque vraiment à sa mission d'annonce du Christ et qui s'est installée, une sorte d'Église un peu mondanisée, embourgeoisée, assujettie à l'État, devenue une sorte d'instrument docile, silencieux, entre les mains du pouvoir. Pour vous donner quelques exemples, parce que ce n'est pas juste une interprétation, mais des exemples concrets, bien jusque-là, le choix des évêques, par exemple, obéissait déjà à des lois discrétionnaires, favoritisme, etc. On pouvait, le gouvernement avait aussi son mot à dire par rapport au choix des évêques et favorisait tel ou tel pour des raisons financières, de favoritisme. Donc vous voyez déjà des choses... qui vraiment trahissent la mission spirituelle de l'Église. Et puis, voilà, les fidèles eux-mêmes se détournent des églises, les églises se vident. La Sainte Cène n'est célébrée qu'aux très grandes fêtes, et même ces jours-là, il y a peu de communion. Et donc, une sorte une Église un peu dans une sorte de dépression spirituelle, de désaffection. Et comme souvent, vous voyez, c'est dans ces époques, ces moments un peu de léthargie, qu'en fait va naître vraiment un désir profond de renouveau. Il y a une attente, il y a une attente de renouveau. Et c'est justement ce mouvement déclenché par Newman et ses proches qui va être ce sursaut spirituel qui en fait ne demandait qu'à naître. Donc peu après ce premier sermon donné par un de ses amis, Newman va monter à son tour au créneau et se lancer dans la rédaction de tracts, eux aussi au contenu fracassant. Dans son premier tract, Newman va montrer comment la politique du gouvernement britannique constitue une atteinte grave à la nature même de l'Église. Mais encore une fois, c'est pas à prendre d'abord comme une critique à l'égard de l'État. Newman s'adresse à l'Église, il ne critique pas ce que fait l'État, mais il rappelle à l'Église ce qu'elle doit être. Et donc il va inviter les prêtres à se rallier autour de leurs évêques, non pas pour les aider à faire barrage contre des décisions de l'État ou à préserver une sorte de privilège, mais pour vraiment faire corps avec les évêques pour revenir à cet esprit de l'Église primitive et être prêt, s'il le faut, à accompagner les évêques jusqu'au martyr. Une sorte de réveil. Et puis ensuite, un autre tract où il va inviter à réfléchir justement sur l'idée d'Église comme corps du Christ et non pas comme organe de l'État. Ce mouvement d'Oxford, mené par ceux qu'on appelle maintenant les tractariens, va avoir un retentissement considérable et qui dépasse vraiment de loin toutes les espérances initiales de leurs auteurs. Donc encore une fois, il ne faut pas voir dans les tractariens des gens qui viennent s'insurger contre l'État, qui viennent condamner le pouvoir établi ou qui viennent condamner les progrès de la société, de l'humanité, mais ils vont rappeler avec force que ces pouvoirs risquent, s'ils sont mal utilisés, donc ces progrès qui sont bons en eux-mêmes, mais s'ils sont mal utilisés, ils peuvent se retourner contre l'homme et faire ce que Newman avait appelé faire le jeu de l'Antichrist. Donc Newman dira à la fin de sa vie: j'ai toujours lutté contre le libéralisme. Il faut bien comprendre cette phrase, parce qu'on va voir qu'en matière d'éducation, Newman a au contraire quelque chose de très, très libéral, très ouvert, très novateur. Mais le libéralisme contre lequel il lutte, eh bien, c'est la prétention de l'homme à se passer de Dieu. Et c'est le libéralisme pris dans ce sens-là. Hein. La prétention de l'homme à agir par lui-même et par lui seul, aussi bien pour ordonner sa vie, vous voyez, la dimension politique, sociétale, hein, que pour comprendre l'univers, donc la dimension du progrès scientifique, du développement. Donc Newman dira « J'ai toujours lutté contre ce libéralisme-là. » Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un mirage. Hein. C'est l'homme qui croit se grandir lui-même et qui, en fait, est mené par l'esprit de l'Antichrist. Donc je vous ai mis sur la feuille de route d'abord un passage de l'Écriture et puis l'extrait d'un sermon de Newman sur l'Antichrist. Donc Newman a prononcé 4 sermons sur ce thème de l'Antichrist en 1835. Donc vous voyez, justement à cette époque, hein, de la naissance du mouvement d'Oxford, c'est les premières années. Donc 4 sermons qui constituent une sorte de petit traité, hein, où d'une manière très, on pourrait dire, visionnaire, hein, prophétique, qui est toujours aussi actuelle, hein, vous ferez vous-même les applications à ce que nous vivons, hein, à travers tous les textes que nous allons lire, j'aurai pas besoin de les faire, vous verrez, c'est... Eh bien, Newman va chercher à dépister, à repérer, derrière la manière dont le monde avance, eh bien, ce qui est vraiment de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Donc, je commence par le premier texte de Newman, hein, qu'on va parcourir et commenter. S'il est vrai que l'ennemi du Christ et de son Église doivent surgir de quelque extraordinaire éloignement de Dieu, n'y a-t-il pas lieu de craindre qu'en ces jours même, une telle apostasie ne soit en train de se préparer, de prendre forme, de s'accélérer ? Et donc, première apparition du mot apostasie. C'est un mot qu'on trouve dans l'Écriture. Je vous ai mis le passage de la deuxième lettre de saint Paul aux Thessaloniciens. Apostasia, hein, apostasie signifie littéralement défection, désertion. C'est le fait de s'éloigner. Apostasie, c'est le fait de s'éloigner d'eux. Et donc, dans la deuxième lettre aux Thessaloniciens, eh bien, Paul va annoncer cette apostasia qui va précéder immédiatement la parousie, hein, le retour du Christ. Et cette apostasie, eh bien, elle va être marquée, dit saint Paul, par l'avènement de celui qu'il appelle l'homme impie, hein, l'être perdu, l'adversaire. Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, que personne ne vous abuse d'aucune manière. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout ce qui porte le nom de Dieu ou reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Voilà donc un temps d'apostasie, un d'éloignement généralisé de Dieu, d'abandon, qui va être marqué par l'élévation, la révélation, hein, de cet homme impie. Alors Paul l'appelle l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, Jean l'appellera l'antichrist, hein, qui va s'élever, se prétendre lui-même Dieu, hein, s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu. Je continue le texte de Newman. Donc il va, à partir de cette question première, hein, n'est-il pas vrai qu'une telle apostasie ne soit en train de se préparer, de prendre forme, de s'accélérer ? Ben, il va donner des exemples, hein, de ce qui se voit, de ce qui se vit dans la société britannique de l'époque. N'est-il pas vrai qu'en ce temps même se manifeste un formidable effort, pratiquement dans le monde entier, de façon intermittente, plus ou moins, manifestement ou secrètement, en telle place ou en telle autre, mais de la manière la plus visible ou la plus effrayante, dans ces parties les plus civilisées et les plus puissantes, un effort pour se passer de la religion. N'est-il pas vrai qu'existe la conviction, avouée et croissante, qu'une nation n'a rien à voir avec la religion et que celle-ci relève de la conscience personnelle de chacun. N'est-il pas vrai que dans tous les pays se développe un mouvement puissant et concerté pour renverser l'Église du Christ de son pouvoir et de sa position ? N'est-il pas vrai que l'on assiste à des tentatives fébriles et incessantes pour se débarrasser de la nécessité de la religion dans les affaires publiques ? Par exemple, la volonté d'organiser l'éducation sans la religion, c'est-à-dire, ce qui revient au même, en mettant sur le même plan toutes les formes de religion. 1835, quand même. Donc vous voyez, premier reproche, première dénonciation pointée par Newman, premier danger, eh bien une laïcisation, une sorte de séparation absolue entre la sphère publique et le domaine du religieux, vous voyez, qui est relégué à la sphère privée. Ou bien, si on ne peut pas encore supprimer complètement le référent chrétien de la vie publique, parce que quand même en 1830 il est encore extrêmement fort, extrêmement présent, ben, si on ne peut pas encore supprimer le référent chrétien de la vie publique et notamment de l'éducation, parce qu'il fait vraiment partie des racines, de la culture, de la civilisation, de l'histoire, ben, alors au moins se débrouiller pour mettre toutes les religions sur le même plan, vous voyez, de telle sorte que le poids, l'importance du christianisme diminue par une sorte de relativisme qui vient décrédibiliser le christianisme, parce que finalement, puisqu'on ne peut pas supprimer le religieux de l'éducation, on va au moins présenter toutes les religions comme comme une sorte de tout est mis sur le même plan, et donc le message chrétien perd sa saveur. Enfin, premier danger pointé par Newman. Autre danger, donc c'est toujours la même question qui continue dans tout le texte. Donc, autre exemple, la volonté de faire observer la tempérance et les vertus qui en découlent sans l'aide de la religion, par le moyen de sociétés fondées sur le seul principe de l'utilitarisme. Et faire observer la tempérance et les vertus qui en découlent, c'est bien. Mais quel est le danger pointé par Newman ici ? Bien, voilà, prétendre un homme vertueux sans la religion. C'est-à-dire, si on pousse jusqu'au bout, c'est un humanisme sans Dieu. C'est un homme qui peut se sauver par lui-même. Pire encore, un homme qui n'a pas besoin de salut, finalement. Autre exemple, la volonté de faire de l'utilité, et non de la vérité, la finalité et le critère des décisions de l'État et de la constitution des lois. Et donc là, qu'est-ce qui est pointé, c'est la dimension politique. Une politique qui n'est plus mobilisée ou fondée sur le vrai bien de l'homme, sur la vérité, mais sur des critères soit d'efficacité, soit de rentabilité, de confort ou de démagogie. Vous voyez, prendre des décisions qui plaisent au plus grand nombre, ne plus chercher ce qui est vrai, mais ce qui plaît à la majorité. Encore un exemple, la volonté de fonder sur la quantité et non sur la vérité le motif de garder ou de rejeter tel article de foi, comme si l'Écriture nous donnait une raison quelconque de croire que la masse soit dans le vrai et le petit nombre dans le faux. La volonté de vider la Bible de son sens principal en conservant tous les autres, pour nous amener à croire qu'elle peut avoir 100 significations différentes, toutes également valables, ou en d'autres termes, ne pas en avoir du tout. N'être que lettre morte, bonne à mettre à l'écart. La volonté d'effacer de la religion les formes extérieures et objectives, tout ce qui se manifeste dans les rites, ou peut s'exprimer dans des écrits. La volonté de la confiner au domaine de notre sensibilité intérieure, et par là, considérant à quel point nos sentiments sont éphémères, inconstants, évanescents, la volonté, en fait, de détruire la religion. Et donc là, un danger que Newman pointe, non plus au niveau de la politique, de l'État, mais au sein même de l'Église, donc anglicane à l'époque, hein, puisqu'il est anglican, eh bien, il pointe ce danger, vous voyez, de prétendre qu'il n'y a aucun critère objectif, normatif, d'interprétation de l'écriture, par exemple. Chacun peut discerner dans la Bible eh bien, le sens qu'il croit être le bon, et tous les sens sont sur le même plan. Et donc, ben, finalement, l'écriture n'est pas le lieu de la reconnaissance d'une vérité. Hein, à chacun sa vérité. Une sorte de relativisme absolu jusque dans la lecture de la parole de Dieu. Il n'y a pas de critère normatif d'interprétation, il n'y a pas de magistère qui va vous garantir la vérité du sens de l'écriture. Et puis, donc, autre danger pointé, hein, le fait de effacer de la religion toutes les formes extérieures et objectives, tout ce qui se manifeste dans les rites, etc. Hein, donc, la liturgie. Non, il n'y a pas de... Il ne faut privilégier que ce qui relève de la sensibilité personnelle et intérieure de chacun, et rejeter tout ce qui s'exprime de manière liturgique, communautaire. Donc tout est relégué à la sphère individuelle. Puis Newman poursuit. En ces jours même, indéniablement, une confédération du mal se constitue, prend la mesure de ses forces, dispose ses troupes aux quatre coins du monde et encercle l'Église du Christ comme dans un filet, ouvrant la voie à un universel abandon de la foi. Que cette apostasie soit précisément celle qui va donner naissance à l'Antichrist, ou que celui-ci soit encore retardé, nous ne pouvons le savoir, puisque saint Paul dit que l'apostasie justement va être marquée par l'avènement de cet Antichrist qui doit lui-même précéder immédiatement le retour du Christ, la parousie. Donc, que cette apostasie soit précisément celle qui va donner naissance à l'Antichrist ou que celui-ci soit encore retardé, nous ne pouvons le savoir. Mais quoi qu'il en soit, cette apostasie, ses signes et ses agents sont tous du mauvais et portent un goût de mort. Donc, vous voyez, là apparaît dans le sermon, hein, sous la plume de Newman, eh bien, ce mot Antichrist, hein, qui vient, lui, donc, non pas de saint Paul, hein, mais de la première épître de saint Jean. Et quand on regarde donc aussi bien ce que saint Paul dit sur cet homme impie, hein, cet adversaire, que ce que dit saint Jean, eh bien, qu'est-ce qui va caractériser cet Antichrist, qui est lui-même donc agent, hein, de Satan, du démon? Eh bien, c'est que sa venue est marquée, comme dit Paul, hein, vous avez dans la fin de la citation, hein, versets 9 et 10 de la deuxième lettre aux Thessaloniciens, eh bien, sa venue aura été marquée par l'influence de Satan, de toute espèce d'œuvre de puissance, de signe, de prodige mensonger, comme de toutes les tromperies du mal. Donc la question, vous voyez, du mensonge, hein, des signes mensongers. Et cet Antichrist, il va s'employer à étendre le mystère d'iniquité, hein, encore un mot employé par saint Paul, mystère d'iniquité qui est déjà à l'œuvre. Et donc, pour étendre ce mystère d'iniquité, quel est son atout principal? Eh bien, c'est la ruse, le mensonge, la duplicité. De même que saint Jean, dans l'Évangile, parle du diable comme étant menteur dès l'origine, hein, menteur, père du mensonge, en Jean 8, 44, eh bien, cet Antichrist, il va chercher à tromper. Et comment va-t-il chercher à tromper? C'est ce que Newman va développer dans la suite de ses sermons. Eh bien, premièrement, il va chercher à paraître autre qu'il n'est, hein, donc il va dissimuler ses véritables desseins. Ce premier visage de la ruse, voilà, dissimuler ses véritables intentions. Deuxième manière, il va faire des fausses promesses. Enfin, troisième visage, hein, de cette ruse, de cette duplicité, ben, il va séduire par des prodiges étonnants, hein, ce que saint Paul appelle des œuvres, toute espèce d'œuvres de puissance, hein, et qui sont donc des signes, des prodiges étonnants qui sont apparemment bienfaisants. Et donc, dans la suite du sermon, eh bien, Newman va mettre en garde, hein, contre cette ruse du démon. Vous allez voir, enfin, il faut s'imaginer, voyez, en plein culte, entendre Newman prêcher ça. Hein. voilà, mettez-vous dans le contexte et écoutez ces paroles. Qu'il nous soit épargné d'être l'un de ces naïfs pris dans ce lacet qui nous enserre. Qu'il nous soit épargné d'être séduit par ces promesses flatteuses où Satan sait assurément cacher son poison. Pensez-vous qu'il soit assez malhabile dans son art pour vous proposer ouvertement et explicitement de le rejoindre dans son combat contre la vérité? Non, il vous présente des appâts pour vous attirer. Il vous promet la liberté civile. Il vous promet l'égalité. Il vous promet le commerce, la prospérité. Il vous promet l'exemption des impôts. Il vous promet des réformes. Telle est sa façon de masquer la véritable entreprise à laquelle il vous attelle. Il vous invite à l'insubordination envers vos dirigeants, envers vos supérieurs. Le faisant lui-même, il vous incite à l'imiter. Il vous promet l'illumination, vous offrant le savoir, la science, la philosophie, le développement de vos facultés. Il se raille des générations passées, il se raille de toute institution qui les respecte. Il vous souffle quoi dire, puis il vous écoute, vous complimente, vous encourage. Il vous pousse à monter toujours plus haut. Il vous montre comment devenir des dieux. Puis il rit, il plaisante avec vous, il gagne votre intimité. Il prend votre main, il glisse ses doigts entre les vôtres, les referme, et là, vous lui appartenez. Ouais. Une prédication forte. Donc vous voyez, autrement dit, et ça je le souligne, hein, parce que ça va être exploité dans toute la littérature spirituelle après Newman, et pendant tout le XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, hein. Autrement dit, la ruse du démon, vous voyez, ça n'est pas du tout de se présenter ouvertement comme quelqu'un qui va combattre contre la vérité. Non, il va se présenter au contraire comme un bienfaiteur universel. Il va vous promettre la prospérité, la tolérance, la paix entre toutes les nations, etc. Je ne sais pas si vous avez lu, par exemple, le court récit sur l'Antichrist de Soloviev, hein, 1900. C'est exactement ça. À partir du chapitre 13 de l'Apocalypse, où vous voyez la bête de la mer et puis la bête de la terre, donc ils vont faire des prodiges étonnants, ben Soloviev va bâtir un petit récit qui reprend mais exactement, vous voyez, la même intuition que Newman. Hein, l'Antichrist qui se présente comme un séducteur du monde entier, pacifique, promettant l'abolition de la pauvreté, de toutes les inégalités entre les hommes, etc. Donc il ne va pas, hein, ça c'est ce que dit Newman dans un autre sermon, il ne va évidemment pas prôner l'abolition du christianisme, il ne va pas se présenter comme un anti-Christ, hein, mais il va au contraire chercher à endormir les consciences, à proposer une religion confortable, tolérante, hein, voilà, chacun sa vérité, chacun... Hein. Donc Newman dit ceci, il ne pousse pas l'homme à de nouveaux péchés, de peur de réveiller sa conscience endormie et d'y porter le trouble. Il le laisse se contenter, s'amuser d'un simulacre de foi, du nombre de piétés, d'un semblant de culte. Il l'aide même à se créer un simulacre de religion, capable de satisfaire sa raison affaiblie, sachant bien que cette parodie ne doit pas avoir une longue durée, que la mort n'est plus qu'une question de temps, et qu'il pourra bientôt l'entraîner avec lui dans sa sombre demeure. Voilà, tout ça, hein, pour rendre compte un peu de l'intuition qui préside dans le mouvement d'Oxford, hein, dont Newman est un leader, bien c'est que la solution, hein, face à la ruse du démon qui endort les consciences, et qui fait donc... qui entretient finalement l'Église dans une sorte de léthargie spirituelle et puis d'aveuglement face à ce qui se trame dans le monde, mais la solution, c'est vraiment un retour aux sources de la vie spirituelle. Mais ça, c'est le deuxième aspect que je voudrais développer, c'est que ce qui fait la force du mouvement d'Oxford, ben, ça n'est pas, vous voyez, seulement le renouveau spirituel, mais c'est la conjugaison entre renouveau spirituel et renouveau intellectuel. Newman est quelqu'un qui a un sens merveilleux de la noblesse de l'intelligence humaine, même de la sainteté de l'intelligence. Il a lui-même cette, en pleine époque romantique, vous voyez, où on risque toujours un peu de passer d'une émotion à l'autre. Eh bien, pour Newman, il n'y a pas de sainteté chrétienne qui puisse reposer sur autre chose que la vérité. Et donc, c'est toute la question de la noblesse de l'intelligence et de la manière de former, hein, d'éduquer, de faire grandir un jeune de telle sorte qu'il puisse devenir à la fois un homme, un gentleman, hein, comme dit Newman, et un chrétien, un saint. Hein. Donc ça, c'est un autre trait essentiel de la pensée de Newman, hein, comment lutter contre cette mentalité d'apostasie, hein, de libéralisme, où l'homme se passe de plus en plus de Dieu et de la religion. Eh bien, c'est l'éducation. C'est pas pour rien que Newman est entré à l'oratoire, hein, c'est la congrégation de Philippe Néri. C'est un éveilleur de l'intelligence, c'est un promoteur de la culture, c'est quelqu'un qui fait confiance aux capacités de l'intelligence, non pas pour tomber dans le rationalisme, hein, pas du tout. On va voir que Newman lutte de toutes ses forces contre le rationalisme desséchant, hein, ou une éducation qui viserait seulement à former des spécialistes de plus en plus pointus du savoir, c'est pas du tout ça, hein. Mais c'est une confiance vraiment pas d'abord dans la raison, mais dans l'intelligence de l'homme. Donc une éducation qui va viser la sagesse, pas d'abord le génie ou la spécialisation. Donc Newman va avoir une occasion inespérée de mettre tout ça en pratique, parce qu'en 1851, eh bien l'évêque primat d'Irlande va appeler Newman en lui annonçant la décision de l'épiscopat irlandais. Donc Newman est devenu catholique entre-temps, et donc l'épiscopat irlandais a décidé de fonder une université catholique à Dublin, et a choisi Newman pour être l'organisateur, hein, le promoteur, et puis le premier recteur de cette université. Et donc Newman, pour attirer un peu l'attention du public ecclésial, intellectuel, enfin un peu des élites d'Irlande, pour attirer l'attention sur le projet, hein, d'ouverture de cette petite université catholique, eh bien, il va préparer des conférences, 9 en tout. Il ne va pas toutes les prononcer, mais en tout cas, il les a toutes écrites. Et elles ont été rassemblées dans un livre qu'il a intitulé « L'idée d'université ». Que doit être une université ? L'idée, hein, le projet. Et donc, en fait, le but de Newman, c'est dans un petit pays qui est dépourvu, en fait, de tradition universitaire, eh bien, Newman veut expliquer non pas d'abord ce que doit être une université catholique, mais ce que doit être une université tout court. Hein, quel est le but de l'université ? C'est une bonne question. Et donc il va chercher, pas d'abord à décrire, voyez, la structure concrète de l'université ou son profil, hein, mais ce qui l'intéresse, c'est quelle est la vocation, hein, quelle est la finalité de l'université ? Quel est le style d'enseignement qu'elle doit dispenser ? Quelle est la visée propre de l'éducation qu'elle doit promouvoir ? Quel est son but, hein, et son rapport par rapport à la vie sociale, à la vie professionnelle ? Donc ça, c'est les 7 premières conférences, vous voyez, n'ont rien à voir avec la question de l'université catholique. Hein, mais c'est que doit être une université. Et puis dans les 2 dernières conférences, alors Newman va proposer une vision très audacieuse pour l'époque, hein, des rapports de l'Église à l'université. Est-ce qu'il est légitime d'ouvrir une université catholique ? Si oui, ben, que doit-elle proposer ? En quoi diffère-t-elle d'une université qui n'est pas catholique, etc. Vous voyez, c'est des questions très actuelles. Hein. Donc, je commence le texte que vous avez, hein, sur l'idée d'université. La formation de l'intelligence, qui est la meilleure pour l'individu pris en lui-même, est aussi celle qui met le mieux en état de remplir ses devoirs envers la société. S'il faut assigner une fin pratique au cours universitaire, je dis qu'elle consiste à munir le corps social de membres excellents. L'art qu'on enseigne à l'université, c'est l'art de vivre en société. Sa fin propre, c'est de nous préparer à affronter le monde. Donc vous voyez, première idée, hein, une éducation qui ne concerne pas d'abord, vous voyez, l'homme individuel comme tel, enfin, fermé sur lui-même, mais dans sa dimension relationnelle, hein, sociale. L'art, hein, l'art qu'on enseigne à l'université, c'est l'art de vivre en société. Hein. Donc, c'est pas seulement dispenser des connaissances pour la personne, hein, qui les reçoit, qui les apprend, mais l'art de vivre avec les autres, en relation. Et puis affronter le monde. Donc là, un vocabulaire déjà plus dur. On va voir qu'est-ce que ça veut dire affronter le monde. D'une part, l'université ne se contente pas de nous orienter vers une profession déterminée. Donc, le but premier n'est pas de former des spécialistes du savoir dans chaque domaine, de former des mathématiciens, des historiens, non, c'est pas d'abord ça, même si bien sûr elle va donner les connaissances. Et d'autre part, elle ne crée pas davantage les héros, ni ne suscite le génie. Les œuvres du génie, on le sait, transcendent l'art, il n'y a pas de règles qui commandent la formation du héros. Et si ça se saurait, hein, s'il y avait des universités spécialisées dans la formation des héros et des génies, avec des règles particulières. Hein. L'université n'est pas instituée pour mettre au monde les poètes, les auteurs appelés à l'immortalité, les penseurs qui font école, les chefs politiques des colonies ni les conquérants des peuples. Elle ne prend pas l'engagement de préparer une génération d'Aristote ou de Newton, de Napoléon ou de Washington, de Raphaël ou de Shakespeare, même si, dans son enceinte, il lui a déjà été donné d'accueillir quelques-uns de ces prodiges de la nature. Mais elle ne se contente pas davantage de former le critique ou l'expérimentateur, l'économiste ou l'ingénieur, encore qu'il ne soit pas exclu de son champ d'action. Vous voyez, ni génie ni spécialiste, même si il peut arriver qu'elle forme et des génies et des spécialistes. Elle a pour but de hausser le niveau intellectuel de la société, de cultiver l'esprit du peuple, d'affiner le goût de la nation, d'étayer de principes solides les élans populaires, d'assigner aux aspirations de la masse des buts précis, d'introduire dans les idées du temps plus de modération ou d'envergure, de rendre plus facile l'exercice du pouvoir politique, de rendre plus humain les rapports individuels. Vous voyez, c'est assez étonnant comme vision, hein. C'est pas d'abord, voilà le programme de l'année, hein, voilà les matières qui seront enseignées avec le volume horaire et puis les modalités des examens. Non, il se place de beaucoup plus haut. Hein, il regarde quelle est la finalité ultime, hausser le niveau de la société tout entière. Hein. Faire en sorte que voilà, c'est des personnes qui sortent de l'université, eh bien, aient acquis une sorte de savoir-vivre, hein, de qualité, de sens de la culture, de sens de l'autre, de sens de la nation, qui va, dit Newman, rendre plus humains, hein, les rapports individuels. Et ensuite, donc là, c'est plus spécifiquement, qu'est-ce qu'il va chercher, qu'est-ce que l'université va chercher à former dans l'intelligence, hein. L'éducation universitaire rend l'homme lucide et conscient dans ses opinions particulières et ses jugements particuliers. Elle lui donne de les formuler avec vérité, de les exposer avec éloquence, de les imposer avec force. Elle lui enseigne à voir les choses comme elles sont, à venir au fait, à démêler un écheveau de notions disparates, à déceler un sophisme, à écarter ce qui est hors de cause. Donc vous voyez, avant de dispenser une connaissance dans tel ou tel domaine du savoir, on pourrait résumer ça en disant, elle va former le jugement. Faire en sorte que la personne ait une capacité à évaluer la situation, hein, à discerner les grosses confusions, hein, on pourrait dire à distinguer l'essentiel du secondaire, à distinguer l'opinion de la vérité, hein, à repérer ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, là où un raisonnement commence à dévier, hein, évaluer une situation. Donc former un esprit critique, hein, qui fait que, en fait, eh bien, oui, il y a une sorte de liberté de la personne qui naît à travers cette formation de son... La personne devient libre, parce qu'elle est capable finalement d'évaluer par elle-même. Ça ne sera pas forcément un génie des mathématiques, ou un génie de l'histoire, ou de la comptabilité, mais voilà, une capacité à juger des situations comme elles sont, et non pas comme elles apparaissent, hein, et donc une sorte de une sagesse. Hein. Newman emploie lui-même le mot. Hein. Ce qu'il s'agit de faire émerger, c'est pas seulement une science, c'est une sagesse. Et donc, finalement, même une prise de distance à l'égard du savoir qu'on a pu acquérir, hein, mais c'est plutôt un esprit philosophique, vous voyez, une capacité à réfléchir sur sa propre vie, sur le monde, et à se forger une opinion qui n'est pas seulement, vous voyez, une opinion véhiculée par les médias, etc., ou héritée du passé, mais vraiment une capacité à se mouvoir soi-même dans la vérité. Et donc c'est un savoir qui rend libre. Donc vous voyez, c'est une toute autre vision que celle qu'on promeut beaucoup aujourd'hui, hein, d'une éducation rivée sur des objectifs, hein, d'efficacité ou de rendement professionnel, ou bien une éducation qui vise à une spécialisation de plus en plus pointu. On est aujourd'hui dans l'hyper-spécialisation, au détriment, bien souvent, d'une sorte de culture générale, qui pour Newman est en fait ce qui doit au contraire présider. Parce qu'aujourd'hui, on est capable de préparer des gens qui vont être extrêmement, des virtuoses dans des domaines extrêmement précis de la connaissance, mais qui n'auront pas nécessairement, vous voyez, cette vision qui rend libre, parce que c'est cette vision qui se place au-dessus d'une situation et celle évaluée. Hein. Alors pour Newman, il y a un mot qui résume tout ça, c'est le mot « gentleman ». Le « gentleman » pour Newman, c'est l'homme qui est à l'aise en toutes circonstances. Hein. Quelques postes qu'un homme doit occuper, l'éducation universitaire le prépare à y faire bonne figure, à être à la hauteur en toutes circonstances. Elle lui enseigne à frayer avec d'autres, à entrer dans leur mentalité, à leur révéler la sienne, à exercer sur eux de l'ascendant, à s'entendre avec eux, à les supporter. Un homme ainsi formé est chez lui dans n'importe quel milieu. Alors il a toutes les qualités, alors je voudrais avoir le temps de développer une autre idée, donc je ne lis pas la suite de la citation, hein, vous la lirez lui-même. Et cet homme, ce portrait de l'homme, vous voyez, éduqué de cette manière-là, un parfait gentleman, eh bien, on pourrait dire qu'il rejoint finalement en partie celui qu'on pourrait se faire du chrétien. Il a toutes les vertus, il agit avec tact, il est toujours calme, agréable, d'humeur égale, sérieux, etc. Ben, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est un chrétien? Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Alors, ça c'est très intéressant, parce que Newman dit, l'université doit d'abord chercher à éduquer l'homme, parce que c'est la meilleure préparation à la découverte de l'évangile, pour celui qui n'est pas chrétien. Mais alors, quelle est la place de l'Église à l'université? Je finis là-dessus en 3 minutes. Newman va pointer 2 dangers essentiels. Le premier danger de l'université catholique, puisqu'on lui demande d'ouvrir une université catholique, le premier danger, c'est justement face au danger du monde, au libéralisme galopant, à l'apostasie, etc. Eh bien, c'est de vouloir fonder une université catholique qui veuille à ce point préserver, vous voyez, protéger les jeunes, les étudiants de toute influence mauvaise du monde, qu'elle va transformer finalement l'université en séminaire ou en couvent. Elle va proscrire justement tout le savoir profane, la littérature qui n'est pas parfaitement catholique, etc. Et donc Newman va dire attention, parce que ça c'est un danger, c'est quelque chose qui était à l'époque en vogue, justement une réaction de l'Église catholique, une réaction de ghetto face au danger de l'apostasie du monde. Et ben l'extrême inverse, c'est du coup de concevoir l'université catholique comme une sorte de cocon protecteur. Et Newman dit, mais ce jeune-là, vous ne l'empêcherez pas, le moment venu, de se retrouver dans le monde. Et donc, il ne faut pas chercher à le protéger de toute littérature païenne ou de tout. Non, il faut au contraire forger son esprit critique, son jugement, pour qu'il soit capable de se mouvoir dans le monde sans se laisser atteindre par qu'il soit capable de discerner par lui-même ce qui est son bien, ce qui n'est pas son bien. Et donc Newman, en fait, là, dénonce, sans la nommer explicitement, mais cette école de pensée qui se développe notamment en France, avec des gens comme Louis Veuillot, et qui va acquérir de plus en plus d'ampleur en Angleterre, hein, où les anglicans, notamment convertis au catholicisme, sont tellement effarés de la sécularisation galopante du monde qu'ils tombent dans cette mentalité, vous voyez, de ghetto protecteur. Alors Newman dit, vous l'avez empêché de faire la connaissance, donc il parle de l'étudiant, hein, vous l'avez empêché de faire la connaissance d'auteurs dont les pensées touchent le cœur, dont les affirmations sont passées à l'état de proverbe, etc. Hein. Vous l'avez empêché de lire Homère, Aristote, Cervantes, Shakespeare. Pourquoi? Parce que dans leurs œuvres, on respire un relent du vieil Adam. Et qu'offrez-vous à votre élève en échange? Vous le lancez libre au milieu de l'impiété multiforme de son siècle. Vous avez fait en sorte qu'il ait libre accès aux journaux, revues, magazines, romans, pamphlets de controverses, etc. Programmes électoraux, chansonnettes, drames, pièces de théâtre. Libre accès à cette atmosphère de mort qui l'enveloppe et l'étouffe. Tous vos efforts, en somme, n'ont abouti qu'à ceci. Vous avez fait du monde lui-même son université. Où est ce passage où Newman dit voilà, la meilleure, donc c'est au début de la citation, la meilleure manière d'apprendre à nager dans des eaux tumultueuses n'est pas de s'y risquer jamais. Donc l'université, c'est pour Newman justement le lieu où on doit apprendre aux jeunes à nager en eaux tumultueuses, parce que de toute façon il va devoir y plonger un jour. Donc c'est une erreur que de vouloir le protéger, parce qu'en le protégeant, on ne le prépare pas à entrer dans le monde qui sera le sien, qu'on le veuille ou non. Donc voyez, premier écueil, celui d'un sécularisme, d'un libéralisme, d'un rationalisme galopant, où l'homme prétend se passer de Dieu. Mais autre écueil, une réaction catholique extrême, hein, qui voudrait, par bonne intention, hein, préserver les jeunes de toute influence, mais qui finalement... Les parachutes dans le monde désarmés, hein, non. Oui. Donc vous voyez, Newman fait tout ça, on est en 1850, hein, à l'époque de ces. On perçoit facilement ce que ça a pour l'époque de novateur, hein, voire de choquant, hein, pour une pensée catholique qui est peu préparée à entendre un tel discours. Hein. C'est très beau parce qu'on voit à la fois le côté extrêmement réaliste, lucide de Newman, hein, sur le mal qui ravage le monde, mais en même temps cet optimisme, vraiment cette vision extrêmement positive de la place de l'homme et de l'Église dans la société et des capacités que l'homme a de se mouvoir vers le bien si son intelligence est correctement formée, éduquée. Hein. Voilà, je m'arrête, mais je vous invite à lire les dernières citations que j'ai parcourues beaucoup trop vite, hein, et puis à creuser par vous-même l'actualité, hein, de cette pensée de Newman pour notre société. Donc je vous rappelle que jeudi prochain, c'est l'Ascension, donc il n'y a pas de cours du soir, et donc on se retrouve dans 2 semaines avec Sœur Noël Haussmann, qui nous parlera de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus.